Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la dernière étape de ce grand colloque « Recréer le monde ». Et le titre choisi, d'une grande modestie, « Demain ». Une formulation courte, forte, qui nous oblige, qui m'amène à deux réflexions. La première, je la prendrai d'une des formulations que je retiens du propos d'Olivier Alexandre quand il évoque ces êtres d'un nouveau monde qui, je le cite, ne sont jamais là, on n'est pas là, on est toujours ailleurs, comme si la question du présentéisme se posait autrement, c'est-à-dire dans un éternel futur immédiat où la métaphore de la vague, surfer sur la vague, rappelle à chaque instant la posture fière, le mythe prométhéen de ceux qui surnagent, évidemment à la fois tétanisés et pleins de la jouissance de la possibilité d'y être détruits et d'y être écrasés. Et puis, je, étant fort intéressé par mes travaux et depuis longtemps sur les questions cinématographiques pour trouver dans les œuvres, mais aussi dans la manière de les construire et de les faire exister et rencontrer possiblement des publics, vous avez pu, comme moi, noter la correspondance avec un titre éponyme, « Demain ». Ce film, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, est sorti fin 2015, et des films, il y en a plus de 650 par an, en exclusivité, qui tentent d'exister sur les écrans, la plupart très difficilement, singulièrement lorsque ce sont des thématiques de cet ordre-là, de ce qu'on appelle des documentaires. Or, il se trouve que s'il n'était pas facile de trouver de producteurs au sens classique du terme pour les faire exister, c'est un financement participatif, on dit maintenant crowdfunding, il ne faudrait pas trop insister sur la dimension technologique ni sur l'anglicisme, mais c'est simplement la possibilité pour des personnes d'être dans une démarche contributive pour faire exister ce film. Une contribution de 444 000 euros avec un don moyen de 60 euros et qui a permis à ce film qui parle de demain de rencontrer, c'est beaucoup à présent, plus d'un million de spectateurs, c'est-à-dire alors que la plupart des films ont une existence sur les écrans de quelques semaines, de s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire ce n'est pas exactement un produit jetable. Alors ce qui est intéressant, c'est la démarche, c'est-à-dire Cyril Dion et Mélanie Laurent qui ont parcouru 10 pays à la rencontre des personnes qui, face aux défis contemporains, ne se contente pas de s'asseoir, de désespérer, de tourner le regard ou finalement de s'inscrire dans le divertissement. Et ce qui m'a intéressé dans la démarche de Cyril Dion, c'est qu'il a créé une ONG, Colibri, il a beaucoup œuvré pour des causes qui nous sont chères, mais il fait le constat à un moment donné que la multiplication des discours de la désespérance, la tentative de culpabilisation participent d'une perte de foi dans l'avenir qui ne produisent pas toujours les meilleurs effets. C'est toujours intéressant d'essayer de convaincre ceux qui sont convaincus, mais il s'est dit, mais comment intéresser un public large et le cinéma, art populaire, le rend possible? Et dans son film, il y a une citation de Gandhi. Montrer l'exemple n'est pas l'une des façons de changer le monde, c'est la seule. Alors j'ai voulu faire référence à ce film-là pour montrer les contributions des uns et des autres à une démarche qui vise précisément non seulement à identifier ce qui est, bien sûr ne pas masquer, ne pas édulcorer les défis immenses qui sont devant nous, mais en même temps de montrer comment il est possible, parfois modestement, mais c'est autre chose que la modestie qui est en jeu, c'est aussi la fierté de pouvoir y contribuer. Alors, ce que nous allons faire autour de demain, eh bien, c'est de partager des réflexions avec Adeline Rispal, qui est près de moi. Adeline est architecte. Elle est spécialisée dans la scénographie, les scénographies, la scénographie muséale, mais qu'on trouve aussi dans d'autres espaces, l'espace commercial. C'est intéressant de faire référence à Hermès, des carrefours et des voleurs, mais aussi qui a une forme de légèreté qui permet d'ouvrir sur autre chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle dirige un studio éponyme dédié à la conception de projets patrimoniaux complexes. Et je sais que ce qui l'intéresse beaucoup, c'est au fond de penser le lien. Parce qu'au fond, le musée peut tenir à distance par cette espèce de position d'autorité. Bien sûr, il dit « venez », mais pourquoi venir ? D'ailleurs, tout est si accessible à distance. Et puis deuxièmement, partager ces espaces véritablement ou se voir imposer un savoir ou une circulation dans l'espace. Dans cette question du lien entre les personnes, c'est aussi reposer toujours inlassablement la question du lien à soi-même. Et je fais référence à ce que disait à l'instant Elisabeth de Port-en-Part, c'est-à-dire la dislocation de l'image de soi, toutes les formes de dislocation. Chère Adeline, je vous donne tout de suite la parole. Nous avons envie de partager avec vous votre expérience parce que Adeline, c'est bien sûr une pensée, c'est un atelier, mais c'est aussi des workshops qu'elle multiplie en France et dans le monde.
Bonjour, merci. Merci beaucoup à tout le monde, à l'école, à la maison des sciences de l'homme et à la Philharmonie de nous avoir invités, de m'avoir invité. Oui, je ne vais pas vous parler de mes travaux, je vais plutôt vous parler de mes recherches. Qui sont liés évidemment à mes travaux, à mon expérience de 30 ans dans le monde des musées, dans le monde muséal. Je viens de la pratique d'architecture, j'ai fait mes écoles, comme on dit, après mon diplôme chez Jean Nouvel pendant les années 80, sur l'Institut du monde arabe auquel j'ai travaillé donc jour et nuit pendant 6 ans, pour après développer une activité particulière au sein d'une agence qui s'est spécialisée progressivement dans les musées et les expositions. Alors le sujet, évidemment, appelait une réflexion particulière, empreinte de mon expérience et de mes recherches, mais avant tout sur dans quel monde nous sommes aujourd'hui. Il y a bien longtemps, le monde de l'homme était la nature, au sein de laquelle il vivait en harmonie. La nature créait le monde de l'homme, une espèce vivante parmi les autres. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'ère d'Anthropocène, de l'Anthropocène, depuis plus de 2 siècles, c'est l'homme qui façonne le monde terrestre et sa périphérie, le transforme jusqu'à en modifier les cycles naturels, au risque de disparaître aujourd'hui. On peut dire aujourd'hui que le monde sera ce que nous en ferons. Ça n'a pas toujours été le cas. Le poids de cette conscience est écrasant. Il peut nous tétaniser, nous faire fuir dans des paradis artificiels, quelles que soient leurs formes, drogue, jeux vidéo, travail, religion, immersion, numérique, monde virtuel, beaucoup de nos congénères sont aveugles devant les bouleversements qui s'opèrent. Mais cette conscience nous oblige, toutes générations confondues. Les plus jeunes générations semblent mues par un instinct de survie devant l'irréparable que nous leur léguons. Mais tous les jeunes ne vont pas vers la réinvention du monde. Une grande partie d'entre eux sont coupés d'eux-mêmes. Coupés également d'une société qui ne leur apporte plus assez d'attention, qui ne joue plus son rôle dans la transmission des valeurs, des savoirs, des savoir-faire, qui ne leur donne plus les moyens de prendre en main leur avenir. Le philosophe Bernard Stiegler nous rappelle à ce sujet que pour exister, il faut recevoir de quelqu'un un savoir et le redonner à quelqu'un d'autre. Autrement dit, nous sommes liés les uns aux autres et ces liens nous maintiennent dans une estime de nous-mêmes sans laquelle nous ne pouvons avoir le sentiment d'exister. Il donne les raisons de ces ruptures des liens vitaux. Le capitalisme de consommation a conduit à la destruction de tous les circuits de transmission et à leur prise de contrôle, hier par les médias de masse, aujourd'hui par les réseaux sociaux, demain peut-être par l'intelligence artificielle. Dans sa conférence « Les écrans et la jeunesse », il ajoute que le siècle écoulé a été celui de la captation de l'attention par les moyens industriels, à commencer par les industries culturelles, le cinéma, la radio, la télévision, Internet, qui ont organisé la captation de notre attention pour la vendre à des annonceurs industriels. Cette stratégie aurait, selon lui, détruit des systèmes d'identification primaire et secondaire de plusieurs générations, court-circuité la sphère parentale dans ses processus fondamentaux pour aboutir à une désocialisation massive dont on constate aujourd'hui les conséquences désastreuses à l'échelle planétaire. Les impressions fortes que nous procure la nature, l'art ou d'autres expériences, artistiques ou non, engendrent des émotions qui nous rapprochent de nos semblables et nous mettent dans un état d'empathie avec le monde qui nous entoure. Plus nous sommes éloignés du ressenti de nous-mêmes, plus nous nous éloignons du ressenti de notre environnement, tant physique que social. Pour perdurer, le monde de l'économie consumériste est ainsi condamné à nous procurer sans cesse des émotions fortes, au risque de nous couper les uns des autres, ce qui aurait pour effet de réduire la viralité escomptée. Ainsi fleurissent des concepts toujours nouveaux, comme celui, depuis quelques années, de l'effet wow, le wow effect, qui envahissent irrémédiablement l'univers de la culture. L'effet wow provoque l'adhésion des consommateurs confrontés aux produits et également un fort potentiel de recommandation, de viralité. Il peut être source d'un achat d'impulsion. Pour bien comprendre ce mécanisme, il faut aussi rappeler que nos émotions nous aident à ancrer nos expériences dans notre mémoire. Donc plus l'émotion procurée par une expérience sera forte, plus l'expérience sera mémorisée. C'est une des techniques du marketing télévisuel que d'interrompre un film à un moment fort pour communiquer sur un produit. Le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron analyse lui aussi l'état de la pénétration accélérée des écrans de la télévision et d'Internet, qui ne cesse d'imposer aux nouvelles générations, je le cite, d'autres modèles que ceux de leurs parents. Ainsi, poursuit-il, nos enfants sont-ils amenés à intérioriser des repères psychiques et comportementaux non homogènes et non congruents qui constituent pour chacun une sorte de patchwork. Du coup, leur évolution devient totalement imprévisible. En raison de la multiplicité des modèles opérants qu'ils ont intériorisés, c'est souvent d'une figure marquante rencontrée dans leur adolescence que dépend leur orientation vers des manières d'être que rien ne prédestinait jusque-là à devenir prévalente, comme le montre le fait que des jeunes que rien ne semblait préparer un engagement dans la radicalité islamique puissent basculer parce qu'ils ont rencontré un agent recruteur convaincant. Dans l'enseignement, on constate aussi des ruptures d'un autre ordre. Une petite anecdote, lors d'un séminaire d'une semaine que j'animais récemment dans une grande école, j'ai commencé, comme je le fais toujours, par demander aux 25 élèves de Master 1 quel était leur parcours et ce qu'ils cherchaient dans ce master et vers quel métier ils allaient. Pardon. Puis, les tutoyant un peu rapidement, je leur ai demandé si cela ne les gênait pas et quelle était la pratique des professeurs de l'école dans à ce sujet, est-ce qu'ils les tutoyaient. Réponse unanime, nous ne savons pas. Les professeurs ne s'adressent pas à nous. Certains d'entre eux étaient là depuis plusieurs années. Cette anecdote confirme, parmi d'autres, confirme que s'il en était besoin, que l'enseignement en France n'a toujours pas intégré les valeurs de l'écoute, de l'empathie, du partage, du soutien, de la collaboration comme outil de base de l'éducation, qui en reste à enseigner de manière frontale, en niant des décennies d'avancée des sciences de l'éducation. L'école française classe, donc déclasse. Elle déconstruit la confiance en soi innée de l'enfant. Et ce faisant, elle réduit sa faculté de se projeter dans le futur et de créer. Une grande majorité de jeunes n'attend plus rien de nous. C'est à la fois terrifiant et salvateur. Terrifiant car c'est le constat de cette rupture qui ouvre à tous les possibles, et salvateur pour ceux minoritaires que cela pousse à relever les manches et repenser le monde pour le recréer. Le monde sera ce qu'ils en feront. La culture numérique est aussi une chance. Elle permet de développer l'accès du plus grand nombre au savoir, y compris dans les zones les plus reculées du globe. Elle permet de créer de vrais liens, ce que tissent les communautés d'échange, de collaboration, d'entraide, de partage, basées sur des valeurs qui ont toujours été les nôtres et que le numérique permet de réinventer, de déployer à une échelle sans pareille. Le numérique, c'est aussi le lieu de la pratique de tous, de l'appropriation, de la création et de l'imagination. Ma génération a dû se battre contre ses aînés pour imposer une autre vision du monde. Les jeunes générations, quant à elles, sont sommées de réinventer le monde. Elles n'ont pas le choix. Et notre responsabilité et notre devoir sont d'être présents pour les y aider, au risque de voir disparaître l'humanité à tous les sens du terme. L'être présent peut prendre plusieurs formes, physiquement, virtuellement, mentalement, psychologiquement, affectivement, intellectuellement, artistiquement, activement en tout cas. à chacun de trouver son mode de présence à l'autre, aux autres. On peut être présent, vivant ou mort, à travers nos traces, des objets, des créations artistiques ou intellectuelles. À la différence du lien qui matérialise une relation, la présence s'offre à qui la perçoit, à qui en a besoin. La présence est discrète, désintéressée, disponible. C'est ce que chaque artiste, écrivain, cinéaste, chef d'entreprise, architecte, insuffle dans sa production. Sans présence, il n'y a pas d'œuvre, qu'elle soit artistique ou intellectuelle. Sans présence, il n'y a pas d'identification possible par l'autre. La présence des uns dans leur production aide les autres qui la perçoivent. Elle nous accompagne dans notre solitude, dans nos doutes. Elle nous ouvre des espaces. Elle occupe et libère à la fois une place pour chacun. Elle nous permet de construire ce lieu unique qui est notre monde intérieur. Serge Tisseron nous éclaire sur notre rapport aux objets. La vie psychique est une succession de symbolisations des expériences du monde et d'échecs partiels de ces symbolisations. Par cette activité psychique ininterrompue, l'être humain construit en même temps sa vie intérieure et les liens qui l'unissent aux autres et aux objets. Autrement dit, les objets n'ont le pouvoir d'être des médiateurs entre le monde et le sujet, et entre les sujets entre eux, que parce qu'ils sont les médiateurs de soi à soi, et réciproquement. On voit ainsi que liens, présence et objets sont indissociables et indispensables à notre épanouissement. La perception met en jeu l'homme dans son intégralité. Elle est l'expression humaine même, disait l'artiste Rémy Zaugue. On se cherche soi-même dans une exposition. Architecture et scénographie sont des médias. Ils véhiculent de l'information dans un langage non verbal. La scénographie est avant tout un médium. Comme l'institution muséale, elle a le devoir de participer à la conservation, à la transmission d'un patrimoine humain, artistique, scientifique ou social, pour en organiser la rencontre avec les visiteurs à travers l'exposition. Architecture et scénographie nous procurent des émotions qui nous aident à mémoriser, à partager nos expériences. Faire confiance à nos émotions est à la base de l'estime de soi, car celles-ci nous renseignent sur le monde qui nous entoure et nous permettent ainsi de nous y adapter. Elles nous aident à capitaliser nos expériences, à les mémoriser et ainsi à apprendre et à imaginer. Retrouver le chemin de ces émotions à travers les productions humaines est donc non seulement un plaisir, mais un apprentissage vital. Chaque visiteur est unique dans un environnement déterminant. L'expérience individuelle de l'exposition est une création personnelle, subjective, car elle fait appel en premier lieu à nos émotions. Nous nous mouvons dans un territoire, une architecture, une scénographie qui nous touche, nous rassure, nous dérange selon le cas, et qui nous font vivre à notre insu une expérience sensorielle et intellectuelle, se construisant sur les bases de nos expériences sensibles et intellectuelles antérieures. L'exposition est une expérience holistique, c'est-à-dire qu'elle affecte le visiteur dans toutes ses dimensions, à la fois, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle, sociale, culturelle ou spirituelle. Le visiteur interagit en permanence avec son environnement. Son cerveau perçoit et décode les informations transmises par ses sens. Il est dans un état de réceptivité différent selon qu'il est dans sa ville ou en voyage ou lorsqu'il est dans un musée. Lorsqu'il est en voyage, quand il rentre dans un musée, il en va de même. Le contexte urbain, l'architecture, l'organisation spatiale et le mouvement du visiteur dans l'exposition sont les différentes échelles d'espace et de temps qu'il va traverser. C'est là que se jouent les divers niveaux de perception du lieu par les visiteurs, dont les interactions sont primordiales dans la perception globale. Car mémoire et espace sont liés. La zone du cerveau nommée l'hippocampe joue un rôle central à la fois dans la mémoire et dans la navigation spatiale. En fait, on se cherche soi-même dans une exposition. Nous sommes avant tous des narcisses, disait le biologiste Henri Laborie. Tout comme dans les autres situations de rencontre, sociales, littéraires ou cinématographiques, nous recherchons ce qui va résonner en nous. Il convient d'expliciter ce que les neurosciences nous enseignent sur notre perception sensible et intellectuelle des œuvres. Avant eux, dès 1939, dans Le Regard, le conservateur Georges Salles, c'est un livre qu'il a écrit, le conservateur Georges Salles, qui était directeur des musées de France de 1945 à 1957, comparait la rencontre entre l'amateur et l'œuvre avec une rencontre amoureuse. Depuis, le neurologue et neurophysiologiste Pierre Lemarquis, qui est professeur d'éthologie à l'université de Toulon-Lagarde, écrit « Face à l'œuvre d'art, notre système de décryptage des informations visuelles situé à l'arrière de notre cerveau se met en route. Notre cerveau se comporte face à une œuvre comme s'il était face à un être vivant. Les neurones miroirs, reliés au circuit imprimé dans l'empathie, impliqués dans l'empathie, nous poussent à limiter ce que l'on voit dans l'œuvre et à entrer en résonance avec elle. Enfin, s'enclenche le système du plaisir et de la récompense si l'œuvre nous plaît. Si l'on a un audioguide dans l'oreille ou un texte sous les yeux, les informations sont dirigées vers d'autres zones du cerveau impliquées dans le langage et la lecture. Quand on regarde une œuvre d'art, elle nous attire dès l'instant où elle contient quelque chose qui nous ressemble, qu'elle dégage un sentiment de familiarité, de sécurité ou quoi que ce soit, qui inconsciemment nous rappelle un élément de notre histoire personnelle ou de notre culture. Ce mouvement de va-et-vient entre l'œuvre d'art dans laquelle on se projette et notre cerveau fait que notre vision s'élargit peu à peu. L'œuvre nous apprivoise et modifie nos circuits neuronaux. Elle devient plus familière. Or, si dans ce mouvement de va-et-vient intervient un outil d'aide à la visite, celui-ci peut devenir un élément perturbateur, comme un chaperon ou un entremetteur dans une rencontre amoureuse. Le risque est que ces outils nous formatent d'entrée de jeu, soit ils sont purement descriptifs, ce qui n'a pas grand intérêt, soit le contenu est plus interprétatif et notre regard devient moins objectif. Des sciences de l'éducation et de la communication aussi nous renseignent sur les mécanismes de l'apprendre et ce qui se joue au sein de l'exposition. André Jourdan, un vieil ami chercheur dans les sciences de l'éducation et de la communication au sein de son laboratoire de didactique et d'épistémologie des sciences à l'Université de Genève, nous explique que s'émouvoir, comprendre, s'approprier une culture n'ont rien d'immédiat et que les pratiques habituelles, plutôt frontales des musées ou des expositions, font perdre le désir pour de larges franges de la population. L'accès à une œuvre ou à une culture ne peut se faire que par la mise en relation. C'est un processus à la fois naturel et évident, mais le plus souvent complexe et paradoxal, voire conflictuel. Chaque personne apprend en s'appuyant sur ce qu'elle ressent et à travers ce qu'elle connaît déjà, mais le plus fréquemment en bousculant les conceptions qu'elle mobilise dans sa tête. Ces échanges nécessitent, en préalable, de renforcer le désir ou de susciter quand celui-ci est absent. Un environnement culturel adéquat est à mettre à disposition, mais encore faut-il l'interpeller, le concerner, le perturber et l'encourager, lui proposer des éléments de lecture pour lui permettre d'élaborer un autre regard. Il s'agit donc pour le visiteur de pouvoir s'approprier l'exposition dans laquelle il élabore son chemin intérieur à partir de ce qu'il est, de ce qu'il porte en lui pour aller vers l'autre, et par là vers la culture. Le commissaire ou médiateur est le metteur en savoir, il suppose un message, il choisit un contexte, il peut fournir des indices, des clés de lecture. Le scénographe ou metteur en scène choisit le langage qui permet au savoir de rencontrer l'espace mental du visiteur. La scénographie est ainsi l'art de favoriser la rencontre entre l'homme et l'œuvre de l'homme. Elle est un relais, un facilitateur, un intermédiaire entre l'univers du visiteur et celui de l'exposition, de l'œuvre matérielle ou virtuelle. Elle a un pouvoir très important. Curieusement, et bien que par essence visible, elle est maintenue le plus souvent invisible par les institutions, qui voient une illustration du projet scientifique au mieux, au pire, un risque de concurrence avec les collections. Pourtant, les visiteurs s'expriment à propos de la scénographie lorsqu'on leur en laisse la possibilité. Ils peuvent dire « cette scénographie m'a permis de rencontrer des œuvres, sans ça je serais passé à côté », ou « cette exposition m'a touché, pourtant le sujet ne m'attirait pas du tout ». Cette scénographie m'a ouvert le regard sur des œuvres, sur cet univers, où j'ai aimé la liberté dont nous disposions dans cette exposition. Cela a facilité ma rencontre avec les savoirs, mais on ne leur pose pas la question. Ces propos qui m'ont été adressés par des visiteurs tout au long de ma carrière montrent d'une manière bien peu scientifique, j'en conviens, que certains visiteurs ressentent l'apport de la scénographie dans la qualité d'une exposition, sans pour autant s'arrêter à son aspect esthétique, encore que le beau et la poésie soient parmi les langages les plus partagés au sein d'une même culture. Le visiteur est progressivement devenu le centre de l'exposition, et pour le meilleur et pour le pire. Fort est de constater que les musées sont eux aussi entrés dans l'ère du consumérisme. La crise aidant, les logiques économiques ont pris le pas sur les impératifs scientifiques, symboliques, sociaux, tout en développant un arsenal pédagogique capté par une industrie numérique qui transfère ses innovations technologiques dans le champ muséal. Un musée est principalement jugé à l'aune de sa fréquentation, encore aujourd'hui. Les visiteurs sont sommés de circuler dans les expositions à forte fréquentation et captés au début et en fin de parcours et par Internet pour consommer des produits culturels en tout genre. Or, il faut du temps et du silence pour la perception de l'espace de l'exposition, pour la disponibilité à la présence des œuvres ou d'un univers particulier, pour l'attention aux formes, pour le regard qui les perce, pour l'approche intellectuelle pour l'approche intellectuelle de leur émergence, pour la convivialité entre les visiteurs, pour la transmission aux plus jeunes, aux plus démunis, pour tout ce que le musée offre comme possible. Il faut aussi de l'espace entre les concepts scientifiques, entre les hypothèses et les démonstrations théoriques. L'histoire de l'art et les œuvres exposées pour en témoigner. Tout comme il faut de l'espace dans un roman ou dans un film pour que le visiteur puisse s'y projeter. Refuge potentiel contre une société consumériste, espace privilégié de l'accès aux traces matérielles et immatérielles du passage de l'homme sur Terre, le musée ne peut continuer à diffuser cette injonction contradictoire, consommer des savoirs et circuler. La plupart des musées cherchent à élargir le champ des activités proposées aux visiteurs pour les fidéliser, les inciter à pratiquer le musée au quotidien, comme un lieu de vie dans la ville. Rares sont ceux qui expérimentent d'autres voies au service de l'apprentissage du regard à travers expositions permanentes ou temporaires. En voici trois exemples. Le premier est le musée Inselbrücht, près de Düsseldorf en Allemagne. Il a ouvert à la fin des années 80 et présente dans un parc et dans quelques pavillons très sobres la collection Karl Heinrich Müller, grand amateur et ami des artistes. Le musée est un lieu à part, loin de l'agitation quotidienne et des tendances à la mode, une invitation à la rencontre de la nature et de l'art. Les œuvres sont exposées selon des assemblages non dictés par l'histoire de l'art ou de quelconque thématique, mais pour le plaisir des assemblages, des liens invisibles et sans aucune signalétique pédagogique, sans aucun texte, sans éclairage artificiel. Quand il fait nuit, on ne voit plus rien. Des œuvres de Land Art sont installées dans le parc, au grand bonheur des familles qui viennent passer la journée, nombreux, avec des enfants, d'un pavillon à l'autre, et ils sont libres de leur parcours. L'un des pavillons sert de cantine où l'on mange assis à de grandes tables collectives d'aimer très simples. Aucune injonction n'est faite aux visiteurs. C'est le plaisir de l'expérience de l'art et l'ouverture potentielle du regard qui sont favorisés au bénéfice des publics les plus érudits jusqu'aux plus néophytes. Et notre expérience est menée depuis 2001 au Danemark, au musée Trafold. Ils explorent une méthode de curating. Je ne sais pas comment on dit en français, on dit curator, on dit commissaire, mais on ne dit pas commissarié, donc on va dire curating, qui est le fait d'être commissaire. Donc cette méthode de curating par les visiteurs, pour activer leur cadre de référence personnel et leurs préférences, sans aucun background ni aucune connaissance de l'histoire de l'art. Une exposition par an pendant 4 ans a permis au musée de mener une recherche approfondie et de continuer encore sur de nouvelles traces. Les expériences faites dans ce musée montrent que l'expérience d'œuvres d'art par l'acte de curating peut avoir un effet positif sur le bien-être psychologique des visiteurs en relation avec la visite du musée d'art qui en donne une approche cognitive. Elle montre en retour qu'une approche cognitive de l'œuvre peut être élargie par l'introduction de compréhensions nouvelles et personnelles de l'œuvre d'art. Jusque-là réduit à de petits groupes de visiteurs, l'expérience est depuis 2014 élargie à tous les visiteurs dans une exposition qui s'appelle Your Exhibition. Il s'agit d'une exposition traditionnelle basée sur des collections du musée, mais avec une application numérique permettant aux visiteurs de recueillir des œuvres d'art en fonction de leurs définitions et préférences personnelles et ainsi de créer leurs propres petites expositions. La thèse de ce projet de recherche est la suivante. Le bien-être psychologique des visiteurs à l'intérieur du musée d'art sera augmenté lorsque le curating est présenté comme un cadre de travail cognitif pour l'expérience et la compréhension de l'art et pour la visite du musée. Le curating contribuera à donner une compréhension et une proximité de l'art et du design utile dans la vie des gens, augmentant ainsi leur bien-être psychologique. Ce projet de recherche contribue au domaine en offrant une plus grande compréhension de la dynamique entre le visiteur, œuvre d'art et le musée à travers le cadre cognitif de l'acte de curating. La Tate Gallery de Londres est aujourd'hui associée à cette recherche qui se prolonge. Enfin, pour finir, ce n'est pas vraiment une expérience, c'est un travail d'élèves de l'école d'art de Tourcoing qui ont généré une exposition qui vient d'être achevée, Fixation, saccade et autres trajectoires, présentée à la galerie commune donc, du pôle des arts plastiques de Tourcoing. Elle a été conçue par des étudiants sous la direction de l'artiste Julien Prévieux dans le cadre du projet de recherche Oculométrie et perception des images. nouveaux enjeux esthétiques, avec le Centre régional de la photographie et le Scalab Université de Lille. Certains travaux, s'il en était besoin, montrent que la subjectivité et la diversité des regards des visiteurs sur les œuvres artistiques, et plus encore la diversité des regards d'un même spectateur sur une même œuvre, selon l'état psychologique dans lequel il se trouve. On voit ici une expérience qui a été faite par l'artiste Fanny Pentel, qui a utilisé ses lunettes d'oculométrie pour faire différentes expériences sur elle-même. Elle a regardé une même œuvre à différents moments de la journée ou différents jours, dans différentes situations et dans différentes recherches. La première image que vous voyez ici, ce sont ses regards, donc c'est toujours elle, c'est le graphique donc, du mouvement de ses yeux, selon des thématiques qu'elle s'était imposées dans sa façon de regarder l'œuvre. C'est toujours la même œuvre qui est regardée. On voit que selon la thématique qu'elle a adoptée, croisement, aspérité, globalité, oblique, rebond, etc., ça donne des diagrammes qui n'ont strictement rien à voir. Ce qui est, je trouve, c'est un diagramme absolument extraordinaire. La deuxième approche qu'elle a menée, c'était de regarder la même œuvre dans des états d'âme différents. Alors sans but, avec un regard analytique, ou un regard sur les courbes, ou juste pour le plaisir, ou avec un mal de crâne, ou agacé, ou après une méditation, ou en état de contemplation. Voilà, cette expérience montre qu'on commence à peine à se poser les questions de notre regard sur les œuvres, et surtout à se les poser en croisant les sciences et les disciplines scientifiques, à la fois des neurosciences et des sciences sociales, et que je pense que l'avenir est à la confrontation de ces points de vue et la confrontation et la collaboration de ces différents points de vue. Et j'appelle de mes voeux tout programme de recherche qui irait dans ce sens-là pour aborder les questions proprement muséales qui, en fait, touchent, comme vous l'avez compris, à la fois à l'être profond que nous sommes et qui pourrait ouvrir sur des pratiques différentes à la fois de l'exposition, mais aussi, je pense, de l'architecture. Merci.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Adeline pour ces propos que nous avons partagés, je crois, avec force, avec émotion aussi, montrant que pensée, émotion, sensible, ne relèvent pas de registres par nature différents et bien au contraire. Je vous propose maintenant, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, de partager quelques réflexions, peut-être poser quelques questions à Adeline. Alors, le micro va circuler. Cher monsieur, la parole est à vous.
La scénographie fait que les visiteurs se sentent bien, c'est très bien. Mais vous l'avez évoqué, aujourd'hui, il n'y a plus de règles. Et quand on est bien, on oublie les autres. Et moi, en tant que visiteur, par exemple, je suis peut-être vieux, mais bon, pour que je perçoive bien, il me faut une certaine tranquillité. Et ce que je crains aujourd'hui, ce que j'aime plus aujourd'hui, c'est que au musée, notamment les musées, eh bien les gens parlent, les gens discutent et sont contents, ils échangent entre eux des commentaires, mais ils oublient les autres. Et je me rappelle une fois, j'avais fait cette remarque à une personne en lui demandant de baisser un peu le ton, et elle m'a répondu, c'est là où je veux en venir, « Monsieur, je ne suis pas dans une église. » Le musée est devenu profane, mais c'est un peu n'importe quoi, enfin, en tout cas pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez de cette tendance à transformer le musée en espace profane où tout est permis?
Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que c'est vraiment un peu le cœur de la problématique que nous avons aujourd'hui de cette contradiction dont je parlais, qui veut que le musée est jugé à l'aune de sa fréquentation. Donc on va tout faire pour faire venir le maximum de gens, alors qu'en réalité, c'est ce que disait aussi, il faut du temps, il faut du silence pour rentrer en relation avec une œuvre, avec un sujet, quel que soit le lieu finalement. Même un enfant a besoin de calme pour rentrer en relation avec un sujet, il a besoin d'un professeur, il a besoin d'un lien, il a besoin de calme. Donc effectivement, il y a une contradiction à laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse. Néanmoins, je pense profondément que le musée reste un lieu de haute spiritualité, toujours. Pourquoi ? Parce que les traces de l'homme sont dedans. Donc, à partir du moment où vous avez les traces de l'homme, qu'elles soient artistiques, intellectuelles, historiques, on est dans l'espace sacré en réalité. Hein. Alors, on a essayé de le désacraliser, ce qui était plutôt une bonne chose, puisque c'est un espace qui était totalement coupé de la société, enfin qui était à destination d'une certaine couche de la société. À partir du moment où on décide d'élargir, on cherche à élargir, on se confronte à cette problématique-là. Moi, j'ai analysé le Louvre à une époque, je travaillais sur la Vénus de Milo, et j'ai analysé comment les comportements au Louvre, qui sont délirants au Louvre, hein, parce que les gens grimpent sur les socles pour mettre leur tête derrière des sculptures sans tête, pour se faire prendre en photo. Donc, le Louvre est un lieu où on voit des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et je me suis vraiment demandé pourquoi. Et je pense qu'une des réponses, c'est qu'on a tellement retiré le seuil pour entrer au Louvre. En fait, on rentre par un couloir de métro, hein, une galerie commerçante. Et finalement, le seuil entre la galerie commerçante de la pyramide inversée, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, et l'entrée dans la galerie du Louvre, le seuil, c'est là où on met son sac pour qu'il soit scanné. Et donc, les gens rentrent au Louvre et ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont rentrés dans un lieu, je dirais, plus différent. Et c'est ainsi que s'ils n'avaient pas un service d'ordre un peu musclé, ils rentreraient avec des canettes de Coca-Cola et autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a tellement plus de seuils, même au Louvre, il y a tellement plus de seuils qu'effectivement, il y a des comportements qui sont inciviles et qui sont inacceptables et qui ne se produisent pas dans tous les musées quand même. Hein, parce que la plupart des musées ont quand même gardé ce seuil. Donc je pense que la question qui nous est posée, c'est la question de l'équilibre entre un lieu de la spiritualité, un lieu du sacré, et cette ouverture au monde. Et je pense que c'est en parlant de cette dimension, c'était un peu le sens de mon intervention, c'est en parlant de cette dimension sacrée qui est la construction de son monde intérieur, qui est quelque chose de sacré aussi. C'est peut-être en parlant de cela aux visiteurs, en expliquant, pas aux visiteurs évidemment, à tout enfant, là on parle d'éducation depuis la plus petite enfance, c'est en parlant de cela aux visiteurs que peut-être on les amènera à avoir une autre conscience du lieu, tout en étant, je dirais, c'est pas non plus une église, effectivement un musée, tout en acceptant la dimension conviviale du musée, qui est extrêmement importante, puisqu'il n'y a pas beaucoup de lieux de convivialité publique. Et à partir du moment où les gens parlent, font leurs commentaires sur une œuvre, ça veut dire qu'ils commencent à s'approprier justement un regard personnel sur cette œuvre. Donc c'est assez gênant effectivement pour les autres, mais le processus de captation, je dirais, d'un regard personnel commence par ce regard et après le partage de premiers mots, de premières impressions avec son partenaire. Donc ça, ce processus, c'est plutôt une bonne nouvelle quand les gens se mettent à parler entre eux de ce qu'ils sont en train de regarder, parce que c'est le début d'une appropriation et donc c'est le début d'un chemin vers après des connaissances plus structurées, éventuellement d'histoire de l'art et d'autres. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Une autre question, monsieur, à vous.
Oui, bonjour, merci pour cette présentation. J'avais une question relative à la construction du parcours en tant que scénariste, hein, la place du spectateur dans un parcours de visite. Et donc dans l'élaboration d'un discours, hein, le lien qu'il peut y avoir entre le parcours et le discours. Et j'aurais aimé savoir à ce propos, quelle place vous donniez à le hors-musée, c'est-à-dire ce qu'on a communément l'habitude d'appeler la pré-visite et la post-visite dans votre travail de scénarisation. Et quelle place pourrait tenir ou tient aujourd'hui le numérique dans ce hors-espace du musée ? Merci.
Oui, j'avais pris un exemple d'une exposition sur laquelle nous travaillons actuellement. Je l'ai enlevé pour faire court, donc je vais revenir dessus. Effectivement, on travaille aujourd'hui sur les publics au sens large du terme. On travaille plus sur les publics qui sont les publics réels de l'exposition, réels. On travaille sur les publics potentiels d'une exposition, ces publics pouvant être des publics connectés. C'est d'abord les publics connectés, mais aussi les publics qui, évidemment, viendront. Donc la notion de public, aujourd'hui, elle s'est complètement élargie. À tout cet ensemble-là, ces publics connectés peuvent être à l'autre bout de la planète, bien sûr, et ne jamais prendre l'avion pour venir voir l'exposition. Et c'est pas grave, parce que il y a plein de manières de se connecter avec, se connecter là au sens, un autre sens du terme, avec un sujet. Là, on travaille sur une exposition avec un groupe de producteurs de cinéma, allemands et français, une exposition sur la guerre de 30 ans. C'est une guerre qui a eu lieu au XVIIe siècle, qui a engagé un certain nombre de pays d'Europe. Et l'idée et de faire une exposition qui croise, qui soit transmédia, qui croise à la fois des films qui vont être diffusés par Arte, des documentaires, des documentaires plus courts, des documentaires d'une heure, des documentaires plus courts, des applications numériques, des quiz, un site web bien sûr, des expositions in situ dans différents lieux, mais de différentes configurations qui seront partiellement avec des objets réels et beaucoup avec du virtuel. Dans chaque musée, dans chaque lieu, elles seront, tous les sujets seront abordés, mais de manière totalement différente et à géométrie variable. Donc en fait, c'est une exposition transmédia, transmuséale, qui est un nouveau genre qu'on explore et qu'on produit avec des producteurs de cinéma. C'est le comble, mais voilà, le projet est parti comme ça. Ça nous donne une très grande liberté pour expérimenter des tas de choses. Et j'espère qu'on va en entendre parler. Enfin, on verra en 2018. Que ce sera l'anniversaire de la guerre de 30 ans.
Mesdames, messieurs, nous arrivons au terme de cette séquence intitulée « Demain ». Et je tiens, au nom de chacun d'entre vous, à remercier très chaleureusement Adeline pour sa contribution. Merci beaucoup, Adeline. Merci.